La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis pour la troisième fois avec Ludwig Klein, qui est astronome à l'Observatoire de Paris-Meudon, radioastronome et spécialiste du Soleil, de ce qui se passe dans les régions extérieures du Soleil et qui nous concerne en particulier parce que ça donne des grandes éjections de matière qui arrivent jusque sur la Terre. Et donc, on a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant de la manière dont se produisaient ces éjections, de la couronne solaire qui est visible en cas d'éclipse totale de Soleil. On a même vu qu'il allait y avoir deux éclipses totales de Soleil, une l'année prochaine et une l'année suivante, pas très loin de la France. Et on a vu aussi que cette couronne solaire pouvait être observée beaucoup plus en détail avec des instruments qui simulent des éclipses. Alors, il y en a au sol terrestre et puis il y en a dans l'espace. Et donc, quand on observe ces éjections de matière solaire dans l'espace, on s'aperçoit que ça va très très loin, que ça fait ce qu'on appelait des bourrasques. Et donc, il y en a qui nous arrivent sur nous, sur la Terre. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de qu'est-ce qui se passe, Ludwig, quand on a des grosses arrivées de matière solaire sur la Terre. Alors la Terre, évidemment, tout le monde le sait, est protégée en partie par son champ magnétique. Mais on va peut-être parler un petit peu de tout ça en détail. Donc, qu'est-ce qui se passe quand de la matière solaire arrive sur la Terre et comment se compte le champ magnétique pour canaliser tout ça?
Oui, les éjections de masse, c'est des éjections de particules électriquement chargées avec le champ magnétique du Soleil, donc des électrons, des protons, des noyaux d'hélium, se propagent au travers de l'espace au même titre que le vent solaire, mais avec une vitesse plus grande. Et ça peut être intercepté par le champ magnétique de la Terre. Cette matière ne peut pas atteindre le sol. En revanche, l'interaction avec le champ magnétique de la Terre force le champ magnétique. C'est comme s'il y avait pression exercée par les éjections de masse sur le champ magnétique de la Terre. Et de temps en temps, le champ magnétique de la Terre et le champ magnétique de l'éjection de masse peuvent se reconnecter, comme on dit, et à ce moment-là, il y a des particules du vent solaire qui entrent dans le champ magnétique de la Terre, et il y a surtout de l'énergie qui entre dans le champ magnétique de la Terre.
Ah, ça, c'est assez extraordinaire.
Oui, ça, c'est un mécanisme qu'on appelle la reconnexion magnétique qui se passe quand deux champs magnétiques d'origine différente se rencontrent et le transport d'énergie fait qu'il y a cette fois-ci pas du côté du Soleil, mais du côté opposé, et un réservoir d'énergie qui se remplit peu à peu.
C'est l'énergie qui vient du Soleil, qui vient du vent solaire et du champ magnétique solaire qui vient se rajouter au champ magnétique terrestre.
Oui, et qui est emmagasiné dans la queue du champ magnétique de la terrestre, c'est-à-dire dans la région opposée au Soleil.
Le vent solaire vient comprimer le champ magnétique terrestre qui se trouve vers le Soleil, dans la direction du Soleil, et de l'autre côté, en même temps, à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, il y a cet étirement, au contraire, qui fait une sorte de queue.
Oui. Tout à fait. Le vent solaire arrive sur le côté champ magnétique tourné vers le Soleil. Il comprime, mais il n'entre pas. Il tourne autour. Et en entourant le côté opposé du champ magnétique de la Terre, il l'allonge dans l'espace interplanétaire. Et donc, une partie du vent solaire peut, s'il y a reconnexion, au lieu d'entourer, tourner autour de la Terre, peut entrer dans le champ magnétique de la Terre.
Et alors je sais parce que tu nous as expliqué ça, ce n'est pas la cause des aurores boréales, pas directement.
Les particules qui entrent directement ne tombent pas avec une énergie suffisante dans l'atmosphère de la Terre pour créer des aurores. En revanche, l'accumulation d'énergie dans la magnétosphère qui vient de l'apport du vent solaire, fait qu'il y a une espèce de décharge dans le champ magnétique de la Terre qui accélère des électrons qui y étaient déjà, et ces électrons acquièrent à ce moment-là une énergie suffisante pour, quand ils tombe dans l'atmosphère de la Terre, cogner les atomes et les exciter à rayonner à 100-200 km au-dessus de la Terre. Et ça, c'est la lumière des aurores boréales et australes, des aurores polaires, qu'on voit souvent dans les régions au nord et de façon symétrique dans le sud.
C'est-à-dire que ces particules qui viennent du Soleil, elles se déplacent d'une façon assez complexe, donc elles vont vers la queue de la magnétosphère et elles reviennent, et c'est ça qui fait les aurores polaires, quoi, oui. Parce que boréales et australes.
Ils doivent être accélérés. Il ne suffit pas qu'ils reviennent, ils doivent être accélérés, oui. Parce que s'ils conservent juste l'énergie qu'ils avaient quand ils sont entrés dans quelques jours avant dans la magnétosphère de la Terre, elles n'ont pas la capacité d'exciter les atomes. Mm-hmm. Ça ne suffit pas. Il faut qu'elles cognent plus fort. Et pour ça, il leur faut une accélération supplémentaire. Et ça se passe dans la queue de la magnétosphère terrestre, donc du côté nuit de la magnétosphère terrestre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on voit les aurores commencer vers minuit.
C'est ça, on les voit la nuit. Et donc... on a vu des aurores boréales assez basse altitude, parce qu'en général, ça arrive une sorte d'anneau autour du pôle, oui. Au-delà du cercle polaire en général, oui. Ou peut-être un peu en dessous, je ne sais pas. Et là, on a vu des aurores boréales à très basse latitude. Donc ça, c'est parce c'est une période très active du soleil, il y avait beaucoup de bourrasques. Qu'est-ce qui fait que ça arrive à des latitudes plus basses?
Les aurores boréales à haute latitude et australes à haute latitude sont dues à l'apport d'énergie par une composante du vent solaire, mais pas par une de ces bourrasques. C'est quand ces bourrasques arrivent, elles arrivent à plus grande vitesse. Disons, le vent solaire le plus rapide arrive à 800 km par seconde et les bourrasques à 2000, parfois 3000 km par seconde, parfois plus. Donc, ça a plus d'énergie, ça perturbe plus le champ magnétique de la Terre et la conséquence est qu'on voit des aurores à des latitudes où on ne les voit pas en temps normal. Et en mai et octobre 2024, on a effectivement vu des aurores en France, ce qui est un phénomène assez courant lors des maxima d'activité solaire, mais il y en avait quand même plus en 2024 que, disons, dans le cycle précédent.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'importance pour la Terre et pour l'être humain et pour la technologie, les instruments, oui. À bord du satellite aussi, par exemple?
Oui, on mesure des perturbations du champ magnétique dues à une bourrasque du vent solaire. On la mesure au niveau du sol et c'est de là que vient le terme orage magnétique qui est une création du 19e siècle, donc bien avant des missions spatiales. Donc, les aurores, les orages magnétiques, c'est quelque chose de sensible au sol et évidemment, il y a eu l'idée que ça pourrait affecter les êtres humains, mais il n'y a pas d'indication vraiment scientifique que ça soit le cas.
Sauf les astronautes dans l'espace, peut-être.
Plus on s'élève dans l'atmosphère, moins on est protégé contre ces phénomènes-là. Et quand on quitte le champ magnétique de la Terre, on a aussi affaire aux particules de haute énergie, c'est-à-dire un peu les sprinters parmi les particules solaires qui sont accélérées autour des éjections de masse ou lors des phénomènes qui se passent dans la couronne quand les éjections de masse se détachent du Soleil. Et ces particules de haute énergie, c'est des particules électriquement chargées. Quand ça arrive dans un dispositif électronique, ça crée un courant parasite. Et ce courant parasite peut avoir des conséquences qui vont d'une commande erronée pour les ordinateurs à bord jusqu'à la destruction physique de partie d'un conducteur. Et donc, il y a des irrégularités du fonctionnement de satellites qui peuvent être attribués à ce phénomène-là, pas forcément la perte de satellite, ça dépend évidemment de la solidité de la construction du satellite. S'il est construit en suivant des normes qui sont définies par les événements solaires forts, à ce moment-là, le satellite est en général bien protégé, mais il peut avoir des dysfonctionnements quand même. Et des satellites qui sont produites de façon beaucoup moins chère peuvent être plus vulnérables à ces phénomènes et dysfonctionner complètement.
Et donc, au sol, enfin, des télécommunications, comment dire, sur le sol terrestre, des transformateurs ou des choses comme ça, c'est arrivé qu'il y ait un problème par rapport au vent solaire?
Oui, les fortes perturbations du champ magnétique veulent dire qu'il y a des courants électriques qui circulent dans l'atmosphère de la Terre et qui peuvent aussi circuler dans le sol. Et ça, c'est notamment le cas à haute latitude, près des pôles magnétiques. Dans l'hémisphère sud, ces régions ne sont pas habitées, mais dans l'hémisphère nord, ces régions se trouvent par exemple au Canada, au nord des États-Unis, ce qui fait qu'il y a eu des incidents sur la transmission de l'électricité à grande distance par les câbles et les courants parasites qui viennent d'un orage magnétique peuvent interférer au point de mettre en sécurité ces systèmes-là, ce qui veut dire que les systèmes se déconnectent pour empêcher qu'il y ait des dégâts matériels.
Donc, en fait, ce sont des effets matériels pour les transformateurs ou les systèmes électriques et tout ça, mais on peut redire encore une fois que ça n'a pas d'importance pour la santé humaine. Les gens ne doivent pas avoir peur.
Non.
Les gens sur Terre, en tout cas.
En revanche, les astronautes, notamment qui quittent le champ magnétique de la Terre, ne sont plus protégés et ça, c'est un problème fondamental pour les missions à grande distance vers la Lune ou vers Mars. C'est un problème beaucoup moindre, mais qui mérite surveillance aussi pour les personnels navigants de l'aviation civile qui sont souvent à 10-11 km d'altitude et qui sont exposés à une dose plus forte de radiation. C'est un travail auquel nous participons avec...
C'est ce qu'on appelle la météo solaire, non?
On appelle ça la météorologie de l'espace. Effectivement, nous sommes vulnérables et nous devons faire attention à ce qui se passe dans l'espace sans devoir avoir peur que le ciel ne nous tombe sur la tête.
Eh bien, voilà une belle conclusion. Merci beaucoup, Ludwig, pour ces 3 émissions sur le Soleil qui ont été passionnantes. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir, Sylvie.